It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Notre invité est une légende du football. 49 sélections en équipe de France, vainqueur de l'Euro en 84, demi-finaliste du Mondial en 82, en 86. Il a marqué plus que des buts, il a marqué une époque. Les années 70 et 80, il a marqué l'histoire d'un club, l'AS Saint-Étienne. Par ses prouesses physiques et techniques, par ses dribbles inoubliables, par ses passes décisives exceptionnelles, mais fait plus rare, il a marqué les Français par son calme, par son élégance et je dirais même son humilité, son altruisme. Certains disent qu'il n'a pas été assez perso. Et c'est vrai qu'il n'a pas été de ces joueurs individualistes qui cherchent à briller seuls sur un terrain ou à écraser les autres pour se faire remarquer par les grands clubs. Toutes ces qualités lui ont valu le surnom d'ange vert. Elles lui valent encore aujourd'hui une place à part dans le cœur des Français. D'ailleurs, il se confie à eux dans un livre, Foot sentimental. Il leur dit ce qu'il pense du foot pro, du foot amateur, des travers de l'époque, de la violence de certains supporters. Mais alors, lui, qui a fait preuve de tant de classe, que pense-t-il de nos bleus aujourd'hui, de nos joueurs en général? Y a-t-il encore de l'élégance dans nos équipes de foot? Y a-t-il d'autres anges? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde d'un regard. Bienvenue à vous, Dominique Rocheteau, et merci d'avoir accepté notre invitation ici, au Sénat, au Dôme Tournon. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un digne successeur aujourd'hui? Y a-t-il un autre ange dans le football?
Il y a des joueurs que j'aime beaucoup actuellement.
Il y en a un en particulier? Bon, peut-être pas, qui aurait peut-être pas le qualificatif d'ange, mais enfin.
Non. Moi, j'ai toujours bien aimé Messi. Voilà. Ah. Quand il est arrivé à Paris, j'étais vraiment très content parce que j'ai pu le voir, parce que je l'avais jamais vu jouer dans un stade. Et donc, voilà, c'est.
Vous l'aimez pour son style de jeu et pour sa personnalité.
Un beau joueur. Ouais. Sa personnalité, son côté quand même. Je dis quand même parce que maintenant, il est dans une autre sphère, je dirais. Mais il a une certaine humilité aussi. Moi, j'ai bien aimé le personnage.
Parce que dans votre carrière, et c'est l'une de vos grandes fiertés, je crois, vous n'avez pris que 2 cartons jaunes, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Et ça semble rare aujourd'hui, voire impossible, inexistant. Il y a quelque chose qui a changé.
Oui, ça fait partie aussi de ma fierté. J'en suis aussi fier que ma carrière, parce que c'est signe d'un comportement sur le terrain. Ouais. Et puis c'est pas un hasard, parce que c'est ce que je raconte aussi dans mon livre. Mon premier exemple, mon premier entraîneur, c'était mon père, et je l'ai vu jouer, je l'ai vu évoluer, et ça a été
votre mentor.
Oui, voilà.
On en parlera parce que vous en parlez effectivement dans ce livre, mais qu'est-ce que ça vous inspire, vous, de voir des joueurs qui discutent les décisions des arbitres en permanence sur un terrain de foot? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous horripile dans cette attitude, vous qui avez été si différent sur des terrains?
Oui, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres qui se sont bien comportés.
Je pense
à un joueur, d'ailleurs, on parlait des cartons, ouais. Gary Lineker, qui était un grand joueur anglais, qui a eu 0 carton.
Donc, vous êtes battu.
J'étais battu. Mais ce que j'en pense, je trouve ça complètement. Quand je vois des joueurs qui vont discuter auprès de l'arbitre, qui discutent toutes les décisions.
C'est systématique, hein.
Ouais, je comprends pas, parce que c'est là où je fais aussi dans mon livre la comparaison avec le rugby, parce que c'est un sport que j'ai toujours aimé, que j'ai pratiqué un petit peu quand j'étais jeune. Ouais. Et le rugby, c'est vrai qu'il y a des règles qui font que les joueurs ne peuvent pas discuter les décisions auprès de l'arbitre.
Pourquoi on le fait pas dans le football, ça?
C'est ce que je me demande, c'est ce que j'aimerais qu'on le fasse. Il y a une règle qui fait que quand un joueur va discuter auprès de l'arbitre, mis à part le capitaine, l'arbitre a le droit d'avancer la faute à plus de 10 mètres, donc ça sanctionne l'équipe. Et au foot, on pourrait très bien le faire, mais je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. On est toujours un petit peu en retard au niveau des règles de la FIFA. Enfin bon.
Ouais. Je vous entendais parler de votre salaire lorsque vous étiez joueur. Ça semble assez fou aujourd'hui quand on voit ces chiffres. Votre premier salaire à Saint-Etienne, c'était 800 francs par mois, donc l'équivalent de 120 euros aujourd'hui. Dernier salaire en 1989 à Toulouse, hein, je crois, après être passé par le PSG, 120, 130 000 francs.
C'est encore en francs, oui.
Moins 20 000 euros aujourd'hui. L'argent a tout gâché.
A tout gâché, je n'irai pas jusque-là, mais l'argent a changé les choses, bien sûr. A changé l'état d'esprit. Ne serait-ce que le milieu des agents. Quoi. Le milieu des agents fait la pluie et le beau temps, notamment dans le football, mais dans le sport aussi en général. Il y a beaucoup d'argent qui tourne dans ce milieu-là, et ça aussi, par exemple, maintenant, un jeune de 14-15 ans a tout de suite son agent, donc ça, moi, je trouve ça complètement fou, quoi. Et puis, il n'y a pas de réglementation, malheureusement. Ils ont essayé de réglementer ce métier, mais il n'y a pas de réglementation. Mmh. Et ça, ce métier d'agent, parce que moi, je peux en parler, parce que j'ai épousé un peu ce métier pendant 2 ou 3 ans.
Ouais, vous avez
essayé. Et j'ai rapidement vu que c'était pas fait pour moi, et parce que
parce que c'est.
J'avais une certaine philosophie, c'était surtout pour aider les joueurs, pour les conseiller, les conseiller sur un plan aussi carrière. Mais souvent, la majorité des agents sont là aussi pour gagner beaucoup d'argent, parce qu'ils savent qu'il y a des possibilités. Quoi.
C'est un vrai sujet pour vous, hein, parce qu'en introduction de votre livre, vous citez Bob Marley, notamment avec cette phrase « Ne gagne pas le monde en perdant ton âme, la sagesse vaut mieux que l'argent ou l'or ». Ça, c'est un vrai message que vous adressez au monde du foot, aux footballeurs aussi.
Un message que j'aime bien.
Jusqu'aux instances.
Ah bah au footballeur aussi, mais c'est à tous les jeunes aussi surtout, parce que mon livre il est adressé à la fois à ma génération bien sûr, mais aussi aux jeunes. Parce que j'ai envie de transmettre des choses, avec une certaine humilité aussi quand même. Je détiens pas forcément la vérité, mais bon, j'ai envie de transmettre des choses aux jeunes aussi.
Leur donner quelques pistes, quelques axes. On voit aussi que les footballeurs deviennent un peu des leaders d'opinion pour les jeunes aujourd'hui. C'était peut-être un peu moins le cas à votre époque, je pense. Aujourd'hui, la société, les politiques attendent d'eux des propos responsables, des prises de position un peu sur tous les sujets, y compris sociétaux. Est-ce que c'est pas trop ? Est-ce qu'on leur demande pas trop aussi aux footballeurs ?
Oui, mais quand on a une personnalité, c'est sûr que les micros viennent vite, donc on est obligé. Moi, j'en ai subi les conséquences aussi. Quand j'étais jeune, j'avais envie aussi de m'exprimer. J'avais des prises de conscience, notamment en Argentine, quand on est allé en Argentine pour la Coupe du Monde.
Ouais.
Enfin, plusieurs événements. Mais je me suis très vite aperçu que, après, il fallait faire quand même attention à ce qu'on disait.
Ouais.
Parce que c'était vite repris, c'était vite.
Vous êtes content de ne pas être footballeur aujourd'hui, non ? On demande aux footballeurs d'avoir des opinions fortes sur des sujets.
Oui, mais après, il y a les réseaux sociaux aussi, ça va très vite, c'est pour ça. Moi, ça n'existait pas,
bien
ça.
Sûr.
Les réseaux sociaux, Twitter et tout, à l'image de Mbappé quand il tweet, c'est sûr qu'il est.
Il est lu, il est écouté, c'est sûr,
et ça peut aller loin.
Il y a un euro de foot qui arrive, ça n'a échappé à personne. Comment vous voyez arriver cette compétition que vous avez gagnée ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a des chances, qu'on a les bons joueurs aujourd'hui pour aller loin dans cette compétition ? Vous avez
Alors sincèrement, je pense qu'on n'a jamais eu une aussi bonne équipe de France. C'est pas par hasard, on a été champion du monde en 2018. En 2022, on est allé en finale. On n'aurait même plus aussi encore être champion du monde. Et là, on sera parmi les, non seulement parmi les favoris, mais je dirais presque les favoris.
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on n'a jamais eu une équipe aussi bonne, d'après vous ?
Parce que c'est une équipe qui a d'excellents joueurs. Il y a une génération assez fabuleuse, quoi. Grâce à la formation française, qui est notamment une des meilleures au monde. Mais ça, j'en parle aussi dans mon livre. Il y a la formation française, la formation dans les centres de formation, dans les clubs pro. Mais il faut pas oublier le football de la base, le football des jeunes, le football des petits clubs, le football des amateurs. Mmh. Et là, il y a un fossé qui se creuse entre ce football-là et il y a un football à deux vitesses, quoi. Il y a un fossé qui se creuse entre ces deux footballs.
Votre parcours à vous, je le disais, vous le racontez dans Foot Sentimental, un joli titre qui vous est venu assez naturellement, qui rend hommage à vos deux passions, le football et la musique, pour ceux qui l'ignorent. Le foot, c'est quand même une affaire de famille, hein, vous l'avez dit, ça vous vient notamment de votre père, pour qui vous aviez une admiration sans borne. Vous écrivez à son propos, « J'étais très fière de mon père, ce héros qui m'a fait aimer le football et m'en a appris les bases. » Vous expliquez aussi que votre calme apparent sur les terrains, malgré les nombreuses provocations, c'est en pensant à votre père que vous l'avez tenu, ce calme. Et pourtant, vous écrivez, si je paraissais calme à l'extérieur, je bouillonnais à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous faisait bouillir comme ça ?
Ah ben, mon caractère. Mon caractère qui faisait que... je pense que c'était important pour moi de faire du sport. Mmh. Et puis... d'avoir une certaine... Puis d'avoir... Après, il faut regarder les choses. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont justement amené dans ce sens-là, amené à avoir une certaine façon de voir les choses. Et je me suis vraiment vite orienté. Alors, c'était dans les années 70, c'était vers cette philosophie de non-violence. J'en parle aussi dans mon livre, parce que qui dit violence, la violence amène la violence de toute façon.
Ouais, donc, et traumatisme aussi, il y a une bagarre qui vous a traumatisé avec votre meilleur ami.
Oui, il y a une bagarre avec mon meilleur ami.
Fini, visage en sang, le nez cassé, à cause de vous.
C'est sûr, ça a été un déclic.
Mais
j'ai rencontré aussi plein de gens, Thierry Ray, David Douillet, qui sont des judokas. Moi, j'aime bien ce sport parce que c'est un sport qui apprend la maîtrise de soi, et ça m'a beaucoup apporté aussi.
La violence dans le monde du foot se passe aussi beaucoup, disons-le, hein, du côté des supporters aujourd'hui. Elle peut être verbale, les cris racistes, les chants homophobes, et puis physique. On a vu l'entraîneur de l'OL, Fabio Grosso, le visage en sang, après le caillassage du bus avant une rencontre avec l'OM au stade Vélodrome, une rencontre finalement reportée. Elle vient d'où, cette violence ? Comment vous l'expliquez, vous ? Celle du côté des supporters.
Ben, j'explique que le football, de toute façon, était un sport, certainement le sport le plus populaire au monde. Donc, il touche, il est à l'image de la société. Et c'est vrai que, alors, de la violence, il y en a toujours eu. Hein. Moi, même dans le football, j'en ai connu, dans les stades, il y a eu
des hooligans.
Je parle de le hooliganisme, mm-hmm. le match de la finale de la Coupe d'Europe entre Liverpool et la Juventus, mm-hmm. où il y a eu beaucoup de morts. Enfin, bon, nous, ça nous est arrivé aussi ces dernières années, quand j'étais dirigeant au club de Saint-Étienne, quand on allait dans certains endroits, on était caillassé, on avait le cœur caillassé, donc c'est pas une première. Mm-hmm. Et c'est vrai que il faut vraiment être hyper sévère par rapport à ces...
Ces
individus, quoi.
Oui, c'est marrant que vous disiez ça, parce que dans votre livre, vous dites « Ce n'est pas avec le bâton que les choses s'arrangeront ». Vous êtes plutôt contre une politique trop sécuritaire vis-à-vis des supporters et dans les stades, justement.
Non, moi, je suis plus pour l'aspect éducation, pédagogique...
En amont.
Sur la communication. C'est pour ça que je dis qu'il faut aussi responsabiliser les supporters. Il faut peut-être aussi qu'ils soient dans les instances du football, alors qu'ils sont complètement... Les supporters, c'est des gens qui viennent sur les stades... qui viennent payer leur place, et puis voilà, quoi. Mais c'est pas uniquement ça, les supporters, ils s'investissent dans leur club, c'est l'histoire du club aussi, des supporters qui sont fabuleux, quoi, qui font tous les déplacements, enfin, c'est leur vie.
Oui.
Donc, j'aime bien les rencontrer, d'ailleurs. Celui-là, j'ai fait un peu pour ça, pour les rencontrer.
Pour
leur rendre hommage. Ouais. Mais il y a aussi des individus qui sont pas là pour... qui sont pas des supporters du tout, qui sont pas là pour les bonnes raisons.
Je reprends le fil de votre histoire qui s'écrit très vite avec Saint-Étienne, hein, dès 1971 en tant que stagiaire. Votre notoriété grimpe rapidement, le public aime vos manières, votre élégance, votre mobilité. Vous êtes recruté en équipe de France et c'est le sélectionneur Stéphane Kovacs qui vous repère et qui vous dit à l'issue d'un match, on se voit en sélection, hein, petit. C'est comme ça que ça s'est passé ? C'est vraiment comme ça que ça s'est passé ?
Ouais, c'est ça comme ça. C'était un match de début de saison, et puis j'avais vraiment, c'était mes premiers matchs avec Saint-Étienne. Et donc je jouais dans une équipe déjà où il y avait, enfin c'était la meilleure équipe française, il y avait des joueurs internationaux. Et puis à la fin du match, bah, il était venu voir les joueurs en fait. Et puis moi il me connaissait pas, je pense, mais bon il m'avait vu jouer sur ce match.
Vous lui tapez dans
l'œil. J'avais marqué deux buts, oui voilà. Et puis dans les vestiaires, il m'a dit, voilà, il m'a croisé, il m'a dit bon bah bientôt, enfin voilà.
Ouais, ça pourrait plus arriver, c'est... ça, une chose pareille.
Bah,
si
non,
on est quand même, quand on élabore une équipe, enfin j'imagine quand on est sélectionneur de foot, c'est tout un plan, tout un travail. Élaborer une équipe, c'est pas comme ça sur un coup de cœur. Enfin ça se fait plus, si.
Peut-être aussi, mais il y a aussi il y a le côté proximité. Je dirais, alors il y a le sélectionneur, bon, un sélectionneur comme ça, bah, qui rentre dans les vestiaires comme ça après un match, je pense que ça c'est de moins en moins. C'est comme les médias, bon, nous, moi à mon époque, les médias, aussitôt après le match, bah, ils étaient déjà dans les vestiaires. Nous on sortait de la douche, on nous tendait les micros. Il y avait le côté proximité. Moi j'ai gardé plein d'amis journalistes et pourtant toute ma carrière et après ma carrière. Ouais. Maintenant c'est des conférences de presse et c'est ce que je reproche un petit peu, mais bon, c'est comme
on
ça, c'est l'évolution.
Oui, on a mis des distances,
bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Les
conférences de presse devant 100 personnes, bon ben. Ouais. Ça, j'aurais pas trop aimé, quoi.
Ouais. Préférer, c'est une position difficile d'être sélectionné ou non sélectionné. C'est quelque chose qui est difficile de devoir toujours faire ses preuves pour que le sélectionneur de l'équipe de France fasse appel à vous et vous recrute en équipe de France, en sélection.
Alors, moi, sincèrement, je pensais pas du tout à tout ça, mais ouais. J'étais vraiment peut-être un peu naïf, un peu. C'est-à-dire que moi, ce qui m'importait, c'était de jouer. Alors, j'ai peut-être aussi été éduqué comme ça, et puis. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, ma philosophie de football, c'était de marquer des buts. Enfin bon, il y avait pas cet aspect collectif. Et c'est ce que m'a apporté Saint-Étienne, l'aspect collectif, la solidarité, enfin certaines valeurs.
Et il n'y avait pas de plan de carrière, quoi.
Non, pas du tout de plan de carrière. Moi, à la fin quand je pars de Saint-Étienne, du PSG, j'ai joué 7 ans au PSG. Et j'avais marqué 100 buts, mais quand je suis parti du PSG, je ne savais pas du tout que j'avais marqué 100 buts. Quoi.
Ouais,
pour
ouais,
moi, ce n'était pas, ouais, pas la priorité.
Vous ne regardiez pas ça.
Non, pas
c'était
du
pas
tout,
important
pas
pour vous.
Je l'ai su beaucoup, mais bien après.
J'ai une archive à vous proposer, Dominique Rocheteau. C'est un document délivré par nos partenaires sur cette émission, les Archives Nationales. C'est une photo qui devrait vous rappeler des souvenirs. Finale de Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne au Parc des Princes, 15 mai 82, un vendredi soir. Un match incroyable. Après avoir été mené, les Verts égalisent, puis repassent devant Paris grâce à un doublé de Michel Platini. Et en toute fin de prolongation, vous, Dominique Rocheteau, permettez à Paris de disputer la séance de tir au but. Et c'est finalement le PSG qui gagne. Elle n'a pas dû être simple cette soirée.
Le premier titre du PSG.
Ouais.
Le premier titre du PSG. Oh bah simple. Moi, après, j'étais du côté du PSG. Quoi. J'avais le maillot du PSG. Je défendais mon maillot.
On n'est pas tiré à vie dans ce moment-là, quand
oui,
on est vert, comme vous l'avez dit.
Avant le match, le fait de rencontrer Saint-Etienne, c'est sûr. Mais bon, après, moi, c'était la première finale de la Coupe de France avec le PSG. Le PSG commençait à avoir, justement, parce que le PSG, à l'époque, c'était... On venait au PSG comme si on venait au théâtre. On venait voir un match de foot, quoi.
Ouais.
Et là, c'était le début, vraiment, des fidèles supporters du PSG qui étaient présents.
Pas une question en vous, pas une seule envie. Moi, je me suis même demandé si dans ces moments-là, on n'a pas envie d'être moins bon que d'habitude, tellement on n'a pas envie de marquer contre l'équipe qu'on aime, contre son équipe de cœur. Non, jamais.
Non, c'est pas du tout ça, non. Une fois qu'on est sur le terrain, après, on joue vraiment pour son équipe, quoi. Et c'est normal. Mais par contre, moi, c'est vrai qu'on me l'a, après ma carrière, les Stéphanois me l'ont souvent reproché. Mais gentiment, mais m'ont souvent reproché ce fameux but qui a fait que Saint-Etienne n'a pas gagné ce match.
Parce que c'est
en plus, c'était
club.
Le dernier match de Michel Platini.
Mais c'est votre club de cœur quand même. C'est une ville à laquelle vous tenez, Saint-Etienne.
Complètement.
Ouais.
C'est mon club.
Mais pas d'état.
Mais j'ai deux clubs. Hein. Enfin, j'en ai trois parce que j'ai fini ma carrière à Toulouse aussi. Les trois clubs, c'est des clubs que je suis toujours. Mais le club qui m'a marqué vraiment, bien sûr, je suis arrivé à 15 ans à Saint-Etienne. J'ai fait toute ma formation et puis cette fameuse épopée avec la finale de la Coupe d'Europe. Enfin bon, ça marque, bien sûr. D'ailleurs. Ça marque tellement qu'on se retrouve toujours, chaque année, notre génération, on se revoit toujours 40 ans après. Donc, c'est pas par hasard. Quoi.
Le PSG aujourd'hui, que vous inspire-t-il sur le plan sportif ? Je vous pose la question parce que je me suis demandé si vous pensiez au club parisien lorsque vous avez écrit ceci. À l'image d'une société éclatée, le football a suivi une évolution qui l'éloigne peu à peu de sa dimension collective. Il est devenu une addition, voire une juxtaposition de destins individuels qui ne favorisent pas l'expression commune d'une équipe. Est-ce que vous pensez au PSG quand
ça va un petit peu loin, je pense...
Ah bah c'est vous qui le dites.
Oui, non, mais je vais un petit peu loin, mais c'est un peu ça quand même, parce que quelque part, moi, pour moi, le football, c'est avant tout une aventure collective, quoi. Moi, c'est là où j'ai connu mes meilleurs moments, quand on gagnait des matchs, ou quand on les gagnait pas aussi. À Séville, par exemple, quand on perd contre l'Allemagne, bah, c'était une aventure collective avant tout. C'était pas et là, ce qui me gêne un peu, c'est que, mais alors c'est peut-être aussi un peu la faute de la société, des médias, tout ça, qui font que on attache beaucoup d'importance maintenant. Alors, au résultat, bien sûr.
Ouais. Et aux prouesses d'un seul.
Ouais, aux prouesses d'un seul. D'individu. Mais aux, comment dire, aux stats. Les stats, le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur. Donc, les joueurs ont tendance à aller vers ça et ça enlève un peu tout le côté collectif du sport, du football, quoi.
Mais est-ce que c'est pas ça qui manque au PSG? Parce que beaucoup s'interrogent sur le fait que le PSG soit bon en Ligue 1, mais au niveau européen n'arrive pas à décoller. Est-ce que c'est parce que c'est cette fameuse addition, juxtaposition de prouesses individuelles, mais que finalement il manque un esprit collectif à cette équipe ou à d'autres, hein, de manière générale?
Oui, bien sûr. Il y a des clubs qui réussissent mieux que d'autres parce que justement il y a l'esprit collectif et l'esprit continuité. C'est-à-dire que maintenant aussi, mais je veux pas critiquer, je veux pas dire toujours que c'était, je veux pas faire le vieux con, que c'était mieux avant, que c'est mieux maintenant, c'est mieux avant. Mais les clubs qui travaillent sur la continuité pendant plusieurs années avec le même entraîneur, avec les mêmes joueurs, ils obtiennent plus de résultats que les clubs qui changent d'entraîneur chaque année. Et ça, c'est une évidence. Et c'est vrai que le PSG, dans les dernières années, ils ont eu tendance parce qu'ils avaient mis la barre haute, parce qu'il fallait des résultats, parce qu'il fallait gagner la Coupe d'Europe. Et dès qu'il n'y avait pas le résultat, on changeait l'entraîneur. C'est l'entraîneur souvent qui est le fusible. Et ça, c'est pas forcément la meilleure des choses.
C'est peut-être lié à ce qui se passe d'ailleurs dans le foot professionnel, mais vous rendez vraiment hommage dans votre livre à ce foot amateur, hein, dont vous parlez aussi depuis le début de cette interview. Vous dites, c'est le football à l'état pur. Les enfants jouent, s'amusent, se divertissent, sans aucune arrière-pensée. Est-ce que dans le foot de haut niveau, on a un peu perdu ça de vue? Est-ce qu'on ne s'amuse plus? On ne fait plus ça pour s'amuser, se divertir avec la pureté, la légèreté?
J'espère qu'ils s'amusent toujours. Moi, je pense que les grands joueurs, Mbappé, je pense que je le vois évoluer sur un terrain, il s'amuse, c'est sûr. Messi, il s'est amusé pendant toute sa carrière, c'est sûr. Mais c'est pas parce que c'est des grands joueurs qu'ils s'amusent plus. Mmh. Par contre, ce qui me gêne un peu aussi, maintenant, c'est que il y a tellement d'argent dans le football. Il y a un club de foot, une équipe de foot, c'est 30 joueurs, 35 joueurs maintenant. Et il y a des joueurs qui jouent plus pratiquement pendant toute la saison, qui jouent très peu. Et parfois, alors moi, je sais pas, enfin, il me semble que si je jouais pas dans un club, je demanderais à partir. Mais il y a des joueurs, ça s'y fait, ils continuent, ils restent dans leur club parce que voilà, ils sont bien dans ce club, ils gagnent beaucoup d'argent et c'est le côté un peu gênant, quoi.
J'ai des photos à vous proposer, Dominique Rocheteau. C'est un rituel dans cette émission. Première photo que je voudrais vous montrer, je ne sais pas si vous la connaissez, il s'agit de Monika Stab, c'est une ancienne footballeuse allemande, aujourd'hui entraîneuse ouais. Voilà, de la sélection féminine saoudienne. Et elle aimerait que l'Arabie Saoudite accueille la Coupe du Monde féminine en 2035, d'autant plus que le pays est déjà candidat pour le Mondial masculin en 2034. Vous qui avez exprimé des réticences au fait de participer à la Coupe du Monde en Argentine en 78, et vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure dans cette interview, notamment pour dénoncer la junte militaire au pouvoir, un peu seul à l'époque d'ailleurs pour le faire. Est-ce que vous diriez qu'on peut jouer dans n'importe quel pays et dans n'importe quel contexte? Ou est-ce que quand même on a une responsabilité, on doit faire attention dans les pays dans lesquels on va jouer ou entraîner comme Monika Stab?
C'est l'image du football actuel, quoi. Voilà, c'est l'argent qui prime. Il faut dire les choses comme elles sont. Mm-hmm. Quand je vois qu'il y a une Coupe du Monde qui va être organisée sur 3 continents... je crois que c'est en 2030. Enfin bon.
Avec un bilan carbone qu'on critique déjà, ouais, parce voilà, qu'il y a beaucoup d'avions.
Là, c'est uniquement les intérêts financiers qui priment. Donc, je pense qu'il y a des endroits où on pourrait justement accueillir une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est fabuleux pour un pays d'accueillir une Coupe du Monde. Mais des endroits, qui n'ont pas forcément les possibilités, les moyens, et on le fait pas.
J'ai une deuxième photo à vous proposer. Il s'agit d'Éric Cantona, ancien footballeur lui-même, devenu acteur, maintenant chanteur. Il a sorti un disque, organisé une tournée. C'est même un tournant dans sa carrière. Je vous en parle parce que vous êtes vous-même, je l'ai dit, un passionné de musique. Et puis vous avez été acteur dans un film, je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, un film quand même de Maurice Pialat, en 95, où le Garçu, vous partagez l'affiche avec Gérard Depardieu. Cantona parle d'un besoin vital de s'exprimer. Est-ce que vous aussi, vous l'avez, ce besoin vital? Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans la carrière qu'il a menée, puisqu'il a fini par transformer l'essai en devenant vraiment acteur et même
chanteur? Non, je suis assez admiratif, je ne sais pas si c'est le mot, mais bon... Je trouve ça très, très courageux de sa part de faire ce qu'il fait, parce que c'est pas évident. Mais bon, il touche un peu à tout, pourquoi ouais. pas. C'est un artiste dans l'âme, hein, je pense. Ouais. Et moi, sur un plan musical, c'est pas pour le critiquer, mais j'aime tellement la musique, je la place tellement haut que je n'irai pas dans ce domaine-là. Le cinéma, ça m'a plu parce que c'était une petite aventure. Bon, en plus Maurice Pialat que j'aimais beaucoup, et donc j'ai eu cette chance-là.
Et vous citez Obama en intro de ce livre toujours. Si j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle, c'est que j'ai compris que je ne pourrais jamais être Bruce Springsteen. C'est parce que vous saviez que vous ne pourriez pas être Bruce Springsteen que vous avez fait du foot.
Oui, bien sûr.
Vous aussi.
Je ne peux pas plus faire de musique.
Une dernière photo, c'est le Tour de France. Le parcours officiel de la 111e édition a été dévoilé par Christian Prudhomme, le patron du Tour, qu'on a reçu aussi dans cette émission. Votre père vous l'a fait découvrir en allant à la rencontre des coureurs. Le Tour qui traverse plusieurs pays maintenant, plus seulement dans l'Hexagone, c'est quelque chose que vous voyez d'un regard critique ou bienveillant?
Ah. Plutôt critique.
C'est vrai?
Oui, parce que ça reste le Tour de France. Je sais pas. Bon, ben, bien sûr, pourquoi pas faire une étape, mais là, par exemple, c'est trop, quoi. Le prochain Tour de France, il va y avoir 4 étapes en Italie. Bah, 4 étapes pour un Tour de France, 4 étapes en Italie, quoi. Pourquoi? Bon. Non, trop, c'est trop.
C'est dit, c'est clair. J'ai une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous nous trouvons, Dominique Rocheteau. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle particulièrement, qui vous caractérise peut-être, vous?
Toutes.
Toutes?
Enfin, pas l'éloquence.
Pas l'éloquence, d'accord.
Non, je suis pas un grand... J'admire les gens éloquents.
Mais vous vous sentez sage? Vous vous sentez...
La sagesse, ouais, mais je suis pas non plus... je suis pas pour vraiment l'extrême sagesse. Hein. J'aime pas les gens trop sages.
Bon, eh ben c'est dit. Merci infiniment, Dominique Rocheteau, de vous être prêté à l'exercice de cette interview, de cet entretien si particulier. Merci à vous d'avoir été avec nous au Sénat. Et merci de nous avoir suivis, comme chaque semaine, émission à retrouver en podcast. N'oubliez pas, à très bientôt sur Public Sénat. Merci.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.